Loué soit le nom du Seigneur pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici aujourd'hui et d'entendre sa précieuse et sainte parole. Lorsque nous avons chanté le dernier cantique, une pensée m'est tout de même venue à l'esprit. Combien de fois et à quelle vitesse disons-nous, Seigneur, je suis prêt à te servir, à tout faire pour toi, à vivre pour toi, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de mettre en pratique la parole, il y a toujours une distance entre la confession de nos lèvres et l'action. Et les actes qu'on pose. Que Dieu nous fasse vraiment grâce, qu'il nous fasse la grâce de mettre vraiment à sa disposition le dernier temps si court qui nous reste. Et comme Paul a pu le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis encore maintenant, je le vis dans la foi du Fils de Dieu. Que cela pourrait simplement devenir ainsi, vraiment ainsi. Je crois que plus le temps passe, plus le Seigneur fera en sorte que tout ce qu'il veut voir en nous soit opéré, efficace, car personne ne peut rien prendre. Si ce n'est que cela lui soit donné par la grâce de Dieu. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à tous ce matin dans le précieux nom du Seigneur. J'aurais aimé savoir qui se trouve parmi nous pour la première fois ce week-end. Puis-je voir vos mains ou voulez-vous vous lever? Qui est ici pour la première fois ce week-end? Levez-vous, s'il vous plaît. C'est très bien. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous nous réjouissons de tout notre cœur, comme je l'ai déjà dit hier soir, spécialement du fait que des portes s'ouvrent, que des frontières s'ouvrent. Et quand j'ai lu hier dans les différents journaux en volant de Genève à Düsseldorf, en passant par Francfort, on pouvait effectivement lire dans l'un d'eux, Mr. Bush a pris un petit morceau du mur de Berlin pour le remettre à Gorbatchev et lui rappeler qu'il était resté debout assez longtemps. Donc, que ce mur était resté debout assez longtemps. Et l'on voit simplement comment les choses suivent leur cours. Et comme je l'ai déjà dit hier soir, il ne suffit pas d'observer ce qui se passe et prend forme de manière prophétique. Nous devons profiter de ce temps, car lorsque toutes les choses en seront arrivées au point où l'on ne pourra plus acheter, ni plus vendre, plus prêcher, ainsi de suite, il sera alors trop tard. Nous devons racheter le temps maintenant. Et pour cela, le Seigneur Dieu nous accordera certainement sa grâce. Aujourd'hui encore, je voudrais continuer à méditer sur la parole. Vous savez qu'un prédicateur de la parole peut parler de parabole. On pourrait parler du fils prodige ce matin. On pourrait parler d'une femme qui avait 10 pièces, qui en a perdu une et qui a cherché jusqu'à ce que la pièce tombée, jusqu'à qu'elle la retrouve. On pourrait en effet parler de temps de parabole et utiliser le temps à cet effet. La question serait de savoir si Dieu peut alors dire ce qu'il veut dire en cette période et produire l'effet pour lequel il envoie sa parole dans cette génération si importante et si grave. Les paraboles, c'est ce que nous pouvons lire en particulier dans Matthieu 13. Et j'aimerais lire au moins un verset qui nous éclaire sur le fait que dans un verset, il y a deux mots ou deux notions de mots. D'une part, une parabole et d'autre part, ou directement dans le deuxième verset, il est question des mystères. Je lis à ce sujet Matthieu chapitre 13, versets 10 et 11. Matthieu 13, versets 10 et 11. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Dans les paraboles, il y avait des mystères du royaume des cieux qui étaient contenus. Tous les autres n'ont entendu que les paraboles, mais n'ont pas connu les mystères du royaume des cieux contenus dans ces mystères, dans ces paraboles. Et l'explication a été donnée immédiatement par le Seigneur lui-même, en se référant au prophète Ésaïe. Et ainsi, du verset 12, il est écrit, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que de leurs yeux qui voient, ils ne voient pas, et que de leurs oreilles qui entendent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe. Avez-vous remarqué de quoi il s'agit? Ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez sans cesse de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez sans cesse de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est endurci. Ses oreilles se sont assourdies et il a fermé ses yeux de peur qu'il ne voit de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, qu'il ne comprenne de son cœur et qu'il ne se convertisse pour que je le guérisse, faisant mention du peuple. Le Seigneur a parlé en parabole afin que les Écritures soient accomplies. Mais dans ces paraboles étaient cachés les mystères du royaume des cieux. Ils étaient enveloppés dans des paraboles. Et plus tard, vous pouvez le lire probablement dans l'Évangile de Jean, peut-être au chapitre 16, où il est dit, il ne leur parlait plus en parabole. Jean 16, verset 25. Je vous ai annoncé ces choses en parabole. Jean 16, verset 5. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Avons-nous compris cela? L'heure vient où je n'envelopperai plus les choses, où je ne les voilerai plus pour qu'elles ne soient pas vues. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai librement et ouvertement du Père. Je voudrais lire d'Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, verset 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation par la connaissance de lui-même. Des yeux éclairés dans vos cœurs. Remarquez-vous, le prophète Ésaïe a dit, avec des yeux qui voient, ils ne voient pas. Avec des oreilles qui entendent, ils n'entendent pas. Ils n'ont pas de compréhension, pas de révélation, pas d'accès dans leur cœur. Il en va autrement pour les croyants. Ils doivent recevoir l'esprit de révélation, de sagesse, de la sagesse divine, la révélation réelle par le Saint-Esprit. Non pas ce qu'un homme à dire, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Paul écrit aux Corinthiens, nous ne parlons pas avec des paroles de sagesse humaine, mais comme l'Esprit les enseigne. C'est ainsi que nous parlons. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de l'intelligence. C'est un royaume qui est imprégné, dirigé, rempli, marqué et conduit par le Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu conduit toujours dans toute la vérité. Bien-aimés, je ne pense pas que nous ayons besoin de parler de conversion ce matin. Je crois que nous sommes convertis tous au Seigneur. Je crois que nous pouvons continuer aujourd'hui, comme nous l'avons fait hier soir, pour mettre la parole prophétique en lumière sur le chandelier pour nous, les croyants, pour reconnaître encore mieux, encore plus profondément le temps dans lequel nous vivons, pour éclairer de tous les côtés, à partir de l'Écriture, ce qui se passe vraiment maintenant. Car dans peu de temps, tout sera terminé. Et s'il n'y a jamais eu un temps où nous devons nous ouvrir au Seigneur et lui demander de nous donner des yeux du cœur éclairés, c'est maintenant. Et la révélation par le Saint-Esprit. Dans 2 Pierre, au premier chapitre, au verset 19, il est encore écrit « Et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons. Et vous faites bien de prendre garde à celle-ci comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le plein jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » La parole prophétique, nous ne le dirons jamais assez. Nous vivons actuellement dans un âge prophétique. C'est une façon de dire, la prophétie biblique s'accomplit dans notre génération. Et nous avons à scruter les Écritures, à les sonder pour voir l'évolution ou le progrès de cette évolution et en tirer des enseignements. Pour voir combien nous sommes proches de la fin, rapprochés de la fin. Encore une fois, je voudrais dire qu'il n'y a pas de place pour la politique dans ce lieu. Et pourtant, il y a des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui doivent être mentionnées. Nous regardons le peuple bien-aimé de Dieu, Israël, parfois avec une douleur intérieure, spécialement en rapport avec cela quand on constate combien il s'efforce d'être reconnu par le pape. Je ne sais pas comment vous suivez les choses et ce qui se passe dans votre tête ou dans votre cœur. Mais j'observe ces choses de très près. Et pourquoi? Je vais vous le dire. Il est écrit dans le prophète Daniel que cet homme va conclure une alliance avec Israël. Et aujourd'hui, on dirait qu'il va établir des relations diplomatiques. Et spécialement lorsque le pape, ennemi juré des Juifs, s'est fait célébrer dans la synagogue de Rome comme le Messie lui-même et que le psaume 150 a été chanté, il y avait toujours une seule demande, être reconnu politiquement. Les choses sont en route, et je vous le dis dès aujourd'hui, l'enlèvement de l'Église épouse et la conclusion de l'alliance entre le Vatican et Israël coïncide très, très étroitement. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'entrer dans la parole prophétique. Mais je sais que ce que je dis et ce que je dis est conforme à la parole de Dieu. Nous devons vraiment faire attention à chaque phase de l'évolution de notre époque. Mr. Glenn sera bientôt en Israël pour plaider sa cause. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet. Entrons dans la réflexion sur la parole qui nous concerne aujourd'hui ou qui pourrait nous aider à avoir une vue d'ensemble. Et c'est ce que nous voulons souligner. À chaque fois, non pas de manière unilatérale, mais pour avoir une vue d'ensemble, et pas d'un seul côté, de ce qui est actuellement d'actualité. Et j'affirme qu'il n'y a pas de peuple mieux informé de nos jours que le peuple de Dieu. Car là où la révélation divine n'est pas présente, les gens tâtonnent dans l'obscurité. Ils se perdent en conjectures et dans des énigmes. Ils devinent. Mais là où la parole prophétique a trouvé sa place et a été révélée par le Saint-Esprit, elle est devenue une lumière brillante qui brille dans un lieu obscur. Je voudrais à nouveau, comme le Seigneur me l'a donné et comme je ne peux pas faire autrement, lire ensemble l'Ancien et le Nouveau Testament. Passons au chapitre 2 d'Amos. Amos, chapitre 2, du verset 11. Combien de personnes croient que l'Ancien Testament est aussi la parole de Dieu? Amen, amen. Mais très certainement. Amen. Amos, chapitre 2, du verset 11. Il est écrit ici. « Et j'ai fait paraître certains de vos fils comme prophètes et certains de vos jeunes gens comme naziréens, donc comme consacrés à Dieu. N'en est-il pas ainsi, enfant d'Israël ? C'est là ce que déclare l'Éternel. Mais vous avez donné du vin à boire aux naziréens et vous avez donner au prophète un ordre sévère. Vous ne devez pas prophétiser. C'est ainsi que le Seigneur a jugé la situation et croyez-moi, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Les hommes restent toujours ce qu'ils sont. Mais Dieu aussi reste Dieu. Seuls ceux qui se mettent de son côté entendront sa parole, l'accepteront et en seront reconnaissants. Vous avez ordonné sévèrement aux prophètes, vous ne devez pas prophétiser. Si un prophète n'a plus le droit de prophétiser, que peut-il encore dire? C'est justement sa tâche. Il est là pour ça. Un prédicateur est là pour prêcher. Un évangéliste est là pour évangéliser. Un enseignant est là pour enseigner, un berger pour s'occuper des moutons, des brebis. Mais un prophète est là pour que Dieu parle et révèle à travers lui. Et parle lui à travers lui pour qu'il puisse dire ce que Dieu veut dire. C'est ce qu'il veut dire par la bouche du prophète. Ce que Dieu veut dire, il le dit par la bouche du prophète. Il y a le deuxième passage dans Amos, chapitre 7, au verset 12. Ici, nous voyons ce qui a été fait à un prophète, avec un prophète, Amos 7, du verset 12. Amos 7, verset 12. Alors, Amatsia dit à Amos, « Voyant, lève-toi, fuis au pays de Juda, mange là-bas ton pain et prophétise là-bas. Mais à Bethel, tu ne pourras plus te présenter comme prophète, car Bethel est un sanctuaire royal et une résidence royale. » Bel argument, n'est-ce pas? Juste là, en haut lieu, c'était pourtant approprié. Des prophètes, comme Élie par exemple et d'autres, étaient envoyés à tout le peuple. Et ils ont eu à annoncer en haut lieu ce que Dieu leur avait demandé de faire. Ce que Dieu leur avait demandé de dire, ce que Dieu leur avait demandé de faire. C'est ici qu'il doit, ou bien ordonné de faire, c'est ici qu'il doit partir. Car le lieu où il a commencé à annoncer et à faire connaître ce que Dieu lui avait ordonné de ne convenait pas à cette maison royale, n'est-ce pas? Et voici ce qu'il en est. Verset 14. Alors Amos répondit à Amasia, je ne suis pas prophète, je ne suis pas non plus membre d'une école de prophètes, mais je suis berger et je cultive des sycomores. Très bien, très beau. Pas un prophète qui dès l'enfance, comme nous pouvons le lire dans Jérémie, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai établi prophète pour les nations et je t'ai consacré. Nous trouvons ici un homme qui a été désigné et appelé plus tard à ce ministère. Et il présente ses excuses en disant, je ne suis pas du tout un prophète. Je ne viens pas d'une école de prophètes. Je suis un cultivateur de figues, de mûriers. Et il dit même, verset 15, « Mais l'Éternel m'a fait sortir de derrière le troupeau. » Et l'Éternel m'a fait sortir de derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a donné cet ordre. Va, prophétise contre mon peuple d'Israël. Tiens-toi debout contre mon peuple Israël comme prophète. Il y a des hommes qui sont appelés à cela dès le début, dès le commencement, depuis le ventre de leur mère. Il y en a d'autres qui sont ensuite désignés par le Seigneur plus tard. Et ils sont appelés. Élisée labourait. Il fut appelé, où qu'il soit. Cela n'avait pas d'importance. Quand Dieu voulait parler, il trouvait quelqu'un par qui il pouvait parler pour dire ce qu'il avait à dire. Le verset 16 dit, « Et maintenant, écoute la parole de l'Éternel, parce que tu dis que je ne dois pas prophétiser contre Israël et que je ne dois pas prêcher contre la maison d'Isaac. C'est pourquoi l'Éternel a dit contre toi, ta femme sera une prostituée dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée et ton sol sera partagé au cordeau. Mais toi, tu mourras dans un pays d'impur, un pays impur et Israël ira en captivité loin de son pays. » Bien-aimé, c'est une chose très sérieuse quand Dieu envoie quelqu'un qu'il qualifie lui-même de prophète. Nous savons que le Seigneur, on a parlé en particulier dans Matthieu 24, que dans les derniers temps, beaucoup de faux prophètes se présenteront ou faux Christ, mais le même Seigneur a également fait la promesse qu'un prophète viendrait avant que le grand et terrible jour du Seigneur ne s'abatte sur la terre. Et il est clair pour nous tous que Dieu avait besoin de quelqu'un par qui parler dans cet âge prophétique, justement, un prédicateur, un évangéliste à sa place, et que chacun la remplisse bien et exerce le ministère selon la volonté et le bon plaisir de Dieu. Mais l'évangéliste ne peut pas prendre la place d'un prophète comme le prophète ne peut pas prendre la place d'un évangéliste. Chacun dans le domaine, dans la tâche que Dieu lui a confiée. Dans l'Église du Nouveau Testament, deux, tout au plus trois prophètes devraient parler dans un service divin. C'est ce que Paul a écrit aux Corinthiens et nous sommes très reconnaissants à Dieu que dans l'Église de Corinthe, contrairement à celle d'Éphèse, certaines choses se sont déroulées de manière chaotique. L'homme de Dieu a donc laissé ses ordonnances bibliques par écrit afin que nous ayons une orientation spirituelle. Pour savoir comment est-ce qu'un service divin doit se dérouler, dans 1 Corinthiens chapitre 14 du verset 29, il est écrit, 1 Corinthiens 14 verset 29, « Que les prophètes ne soient de même que deux ou trois à s'exprimer et que les autres se forment un jugement. » Très clair. Pas besoin d'interpréter cela. Cela ne nécessite pas d'explication. Les prophètes doivent également s'exprimer à deux ou trois. Les prophètes du Nouveau Testament ne sont pas des hommes qui se contentent de prédire les choses, mais qui peuvent reconnaître à éclasser la parole prédite par les prophètes par révélation afin que nous ayons une orientation divine, spirituelle dans l'Église du Nouveau Testament. En effet, tout avait été prédit. Comme l'est écrit dans Hébreux chapitre 1, Dieu a parlé jadis au Père de diverses manières, par les prophètes. Mais à la fin des jours, dans son Fils, oui, c'est dans le Fils qu'il n'a pas seulement parlé, mais dans le Fils, il a donné lui-même la réponse et s'est fait homme pour l'amour des hommes, pour ramener l'humanité à la condition divine. Celui qui était Dieu s'est fait homme pour ramener l'humanité à la condition divine. Il s'est fait fils de Dieu pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Quel plan de Dieu merveilleux et quelle gloire que nous ne voyions pas seulement ce plan, que nous ne le reconnaissions pas seulement, mais que nous soyons effectivement devenus une partie de ce divin, de ce plan divin par grâce. Nés de nouveau pour une espérance vivante que nous portons en nous en tant que fils et filles de Dieu. Et nous pouvons nous exclamer avec l'apôtre Jean, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, alors nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Le retour de Jésus-Christ ne sera pas de nature spirituelle. Le même Jésus qui a été enlevé au ciel, qui est monté au ciel, reviendra de la même manière qu'il est monté. Et nous serons changés. Et avec ceux qui se sont endormis en Christ, qui ressusciteront premièrement, nous serons en même temps ensemble changés et allés à la rencontre du Seigneur. Et nous serons alors toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, en ce lieu, nous croyons la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et nous croyons que Dieu accomplira littéralement chaque parole. S'il est écrit que Dieu amènera ceux qui se sont déjà endormis avec Christ, alors il les amènera. S'il est écrit que les morts ressusciteront en premier, alors ils ressusciteront en premier. S'il est écrit, ensuite, nous qui sommes vivants et qui sommes restés, nous vivons, restés vivants, nous serons changés, alors nous serons changés. Car c'est la parole de Dieu qui le dit ainsi. Et s'il est écrit que nous serons en même temps amenés à sa rencontre, alors le point de rencontre n'est pas en Arizona. Alors le point de rencontre n'est pas en Union soviétique ou bien en République fédérale d'Allemagne. Le point de rencontre entre l'épouse et l'époux est alors dans les airs. Et ensemble, nous allons ensuite au repas de noces de l'agneau. Ça, c'est l'Écriture sainte. C'est ce que enseigne la parole de Dieu. Tout le reste n'est que fantaisie. Cela va encore plus loin ici, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30. Mais si une révélation est faite à un autre qui est encore assis, que le premier se taise. Oh, quelle parole merveilleuse! Nous sommes ici aujourd'hui, tout à fait entre nous. Supposons qu'au cours de cette présentation du conseil divin de salut, un point ne soit pas à sa place dans son contexte et que l'Esprit de Dieu insiste pour que ce point soit également éclairé. Alors, frère Rousse, si la révélation lui est donnée par l'Esprit, ou un frère pourrait se lever pendant que quelqu'un prêche, venir devant et éclairer ce point qui n'a pas été suffisamment éclairé par la révélation qui vient de lui être donnée. Amen. Alléluia. C'est ce que dit ici la parole de Dieu. Oh, je souhaite que cette situation soit bientôt dans l'église du Dieu vivant. Soit là. Car tout n'est pas donné à un seul homme. Dieu a distribué et nous en sommes reconnaissants. Nous arrivons maintenant à une déclaration qui est très importante. Verset 31. 1 Corinthiens 14. Car vous pouvez tous successivement parler comme des orateurs prophétiques afin que tous reçoivent des instructions et que tous soient avertis. Et les esprits prophétiques, en effet, obéissent aux prophètes. Il n'est pas seulement question ici de l'Esprit de Dieu, mais aussi mais des esprits prophétiques, de l'esprit de prophétie qui se manifeste de diverses manières. Nous l'avons ici au chapitre 12, 1 Corinthiens 12, vous pouvez le lire. Or, la révélation de l'esprit est accordée à chacun pour le bien commun, pour la bénédiction, pour le bénéfice de toute l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 7. Mais ici, il est question de l'esprit prophétique. D'esprit prophétique au pluriel. Il existe effectivement une partie prophétique de l'histoire du salut. Une partie prophétique de l'histoire du salut. Et c'est le Saint-Esprit qui de manière diverse, qui est si vaste et qui... Donc l'histoire du salut qui est si vaste et qui doit justement être éclairée de tous les côtés. Des esprits prophétiques, pas des esprits évangélistes, pas des esprits enseignants ou des esprits bergers, mais comme il est écrit ici. Et les esprits prophétiques en effet obéissent aux prophètes. Je ne sais pas ce que vous pouvez en faire pour le moment. Je voudrais continuer à lire et plus précisément le chapitre 22 de l'Apocalypse. Pour vous montrer très clairement, infailliblement, d'après les Saintes Écritures, que ce terme s'applique spécifiquement à la partie prophétique dans les Saintes Écritures. Apocalypse, chapitre 22, verset 6. Puis il me dit, Apocalypse 22, verset 6, ces paroles sont sûres et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, avons-nous remarqué? Je lis des Écritures, pas par cœur, je lis des Écritures, pas par cœur. Puis il me dit, ces paroles sont sûres et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur l'un ou l'autre pour révéler la partie prophétique de la parole de Dieu, il s'agit d'une action directe de Dieu. Alors, ce n'est pas seulement une prédication évangélique qui est entendue. Alors, c'est Dieu lui-même qui est entendu. Alors, c'est l'Esprit lui-même qui parle par la bouche des hommes pour exposer la partie prophétique et donner au peuple de Dieu un discernement et une vue d'ensemble. Cela va encore plus loin avec cette notion d'esprit, avec cette expression des esprits des prophètes, en relation même avec le témoignage de Jésus-Christ. Particulièrement Apocalypse chapitre 19, les dernières phrases du verset 9 et ensuite du verset 10. Ce sont là les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Ou l'esprit de prophétie, selon la traduction. Nous savons ce que ça signifie. Jean est allé sur l'île de Patmos où il a été exilé. Pour quelle raison? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est ce qui est écrit dans le premier chapitre. Pas d'autre sens ni d'autre but. Persécution et persécution, exil de part et d'autre. Dieu avait aussi un sens et un but à cela. Nous pouvons parfois nous dire, est-ce bien nécessaire que cela m'arrive? Laissons Dieu agir, laissons-le agir. Il fera tout pour le mieux, pour le bien même. Vous savez que j'ai passé une semaine sur l'île de Patmos il y a quelques années et je me suis assis dans la grotte. La seule qui existe, il ne peut pas y en avoir une autre. C'est là que se trouvait Jean. Et j'y ai lu et relu l'Apocalypse. J'ai oublié combien de fois. Juste l'Apocalypse, seulement l'Apocalypse. Et je vous le dis, j'étais reconnaissant à Dieu à la fin des jours pour la clarté, pour la lumière, pour tout ce que Dieu a donné. Il y a des moments dans la vie d'un croyant qui semblent plus importants que d'autres. Il y a des jours et des heures, il y a des expériences qu'on ne peut tout simplement pas oublier. Non pas que ce soit un lieu, mais spécialement quand on s'ouvre au Seigneur et qu'on laisse intérieurement la révélation devenir révélation. Ici, la révélation est écrite, noir sur blanc ici, cela ne suffit pas. Elle doit être révélée à chacun par l'Esprit. La révélation doit devenir une révélation. Et alors la lumière se fait autour de nous. Le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, nous avons entendu dire que les esprits sont soumis aux prophètes. Et bien sûr, les prophètes sont aussi soumis aux esprits. Sinon, Dieu ne pourrait pas faire cela. Dieu n'a pas besoin de personnes qui lui soient soumises en quatrième cas de figure. Il a besoin d'hommes qui se soumettent à lui. D'une manière qu'il ait la première place. Et Dieu sait très bien ce qu'il fait et qui il prend, par qui il peut lui-même parler. Il sait très bien, exactement. Par lui, je peux exprimer mes propres pensées. Il n'aura pas ses propres pensées. Je peux parler à travers lui. Il n'a pas de programme propre et de pensée propre. Il en a été ainsi pour tous les prophètes, pour tous les hommes que Dieu a envoyés. Revenant à hier soir et en lien avec la parole que nous venons de lire sur l'esprit de prophétie et le témoignage de Jésus, passons à Apocalypse 12. Nous sommes arrivés ici une fois, Apocalypse 12, au verset 17. Il est écrit, « Le dragon se mit en colère contre la femme et il alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui observent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Nous avons lu ce qui suit le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Il doit donc y avoir des personnes qui reçoivent le même témoignage de Jésus-Christ. Il faut donc que l'esprit de prophétie soit à l'œuvre dans l'Église, dans les derniers jours. L'Église est fondée sur la révélation liée à la foi en Jésus-Christ. Qu'a dit le Seigneur à l'époque? Ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela, mais mon Père au ciel. Dès le commencement, révélation de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Cela continue ainsi jusqu'à la fin, qu'écrit Paul aux Corinthiens. L'homme naturel n'entend pas les choses de l'Esprit, ne les reçoit pas. Il faut que cela soit révélé par l'Esprit. Les hommes ont le témoignage de Jésus. Et qui sont-ils? Ceux qui ont compris ou qui ont entrepris le et ou alors qui ont reçu et accepté le ministère prophétique dans leur temps et se sont ainsi rangés du côté de Dieu dans cette génération. Car seuls ceux qui reconnaissent ce que Dieu a prévu pour cette époque et ce qu'il fait maintenant et sont trouvés dans ces choses peuvent avoir part à ce que Dieu fait. Celui qui ne suit pas ne peut pas y participer. Ce n'est pas seulement aujourd'hui ainsi, il en a toujours été ainsi. Cela peut apparaître dur pour certains, mais ce n'est pas le cas. Au jour de Jean-Baptiste, celui qui passait à côté de son ministère passait à côté de Dieu avec des tambours et des trompettes, en chantant des psaumes, en jouant de l'orgue et tout ce qui s'ensuit. Avons-nous compris cela? Celui qui, au jour de Jésus-Christ, est passé devant lui en disant, « Oh, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, etc. » Il passe à côté de ce que Dieu avait fait. Il ne s'agissait pas de savoir si l'on devait en faire partie ou non. C'était une question de vie ou de mort. C'était une question de vie ou de mort, d'être ou de ne pas être. Chaque fois, tous ceux qui avaient été graciés par Dieu ont reconnu le temps de leur visitation divine. dans leur époque, que celui qui n'a pas reconnu le temps que Dieu a donné par grâce dans son époque, celui-là devait accepter que le jugement vienne sur ceux qui n'avaient pas reçu la grâce, et qu'ils n'avaient pas accepté. Donc, ici aussi, témoignage de Jésus-Christ. Et je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit lié à la prophétie biblique qui nous offre en ces jours, en tant que peuple de Dieu, l'illumination divine. Et que même la parole prophétique brille d'une lumière éclatante, comme nous sommes reconnaissants à Dieu pour la révélation de Jésus-Christ. Et là aussi, c'est écrit, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup peuvent raconter une chose, mais peuvent répéter une chose racontée, mais tu ne peux le faire par toi-même que par conviction intérieure, que si tu ne peux le faire par toi-même, par conviction intérieure, que si cela t'a vraiment été révélé par le Saint-Esprit. Et tu sais alors que Yahvé de l'Ancien Testament est Jésus du Nouveau Testament. Alléluia! Alors tu le sais par révélation divine que c'est la même personne. Alors le pape et le diable peuvent venir. Alors tous les hommes peuvent venir. Même si tu ne peux pas l'expliquer, tu le sais dans ton cœur. La révélation est une substance divine. Mais ce n'est pas une chose que nous imaginons. C'est une substance réelle, vivante, par la grâce de Dieu, dans ton cœur. Tout est fondé sur la révélation. L'esprit scrute, sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Et cela encore aujourd'hui. Et les hommes se sont creusés la tête pour savoir comment Dieu peut ou doit être un et trois et est dans le ciel et sur la terre en même temps, il prie ici et en même temps et au ciel il répond. Non. Et ainsi de suite. Non. Nous ne nous cassons pas la tête, rien du tout, pas du tout. Nous nous réjouissons dans notre cœur et disons, comme c'est écrit dans Deutéronome, que Dieu est en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Au même moment, il peut bien se manifester comme il veut et où il veut, au même moment. Au même temps, en même temps, Dieu n'est-il donc plus au ciel quand il est sur terre? Et s'il est sur terre, il n'est plus au ciel, et que le ciel devrait être vide? Il remplit tout l'univers et dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Oui, alors, où n'est-il pas? Où? Dites-moi, David, dans le psaume 139, disait, si j'allais à l'extrémité de la terre, tu y serais. Si je me couchais dans l'enfer, tu y serais et ta main me conduirait aussi là-bas. Dieu est omniprésent, il est partout. Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient. Et ce seul vrai Dieu qui existe et existera toujours s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Il a pu dire, celui qui me voit, voit le Père, comme nous sommes reconnaissants de cette révélation. Combien de personnes se sont interrogées, se sont données du mal, ont voulu comprendre. Ce n'est pas le moment de comprendre. C'est maintenant le temps de la révélation. Je veux continuer à lire l'Apocalypse. Maintenant, le chapitre 13. Des paroles très importantes et des versets pour continuer avec hier soir. Je ne sais pas s'il est possible d'affleurer tout cela sans aller plus loin, plus longtemps, plus loin dans ces choses. Peut-être pour le bien du contexte extrait de l'Apocalypse, chapitre 12. Allons encore dans Apocalypse 12, verset 3, et dans les premières parties du verset 4. Puis soudain, un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 couronnes royales. Peut-être jusqu'ici. Et je voudrais que ce ne soit pas seulement une prédication, mais aussi un enseignement biblique, que nous soyons attentifs au fait que ce qui est montré plus tard comme la bête sur terre, avec 7 têtes et 10 cornes, est montré auparavant comme le dragon qui est là-haut, mais qui est précipité en bas. Et cela est important dans la mesure où nous voyons où Satan a établi son trône direct sur la terre. Une sainte colère s'abat sur moi lorsque les gens cherchent cet homme chez les Juifs et les païens et non là où il se trouve ou le lieu. Et si la Bible le décrit clairement, ainsi que le lieu, même un aveugle avec une canne doit pouvoir le sentir. Jean a vu un dragon rouge, feu, dans le ciel. Satan, l'ancien serpent, est encore évoqué ainsi dans Apocalypse 20, au premier verset. Apocalypse 20, verset 1, ou pour ma part, verset 2, ou seulement le verset 2, oui. Apocalypse 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable, et Satan, le mit dans des chaînes pour 1000 ans, et le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée, etc., etc. Au-dessus de lui. Je voudrais que nous puissions le voir très clairement. Tel que le Dieu vivant s'est révélé en Jésus-Christ et a donné naissance ici à une église vivante, à savoir l'église du Dieu vivant. L'a appelé à l'existence une église vivante, à savoir l'église du Dieu vivant. Et de même, c'est ainsi que Satan a fait de même. Il a son représentant ici, à sa cause ici-bas, qu'il présente comme la cause de Dieu, n'est-ce pas, Messès? Mais il représente Satan. Je voudrais continuer à lire le 12e chapitre, verset 9 et ensuite verset 13. Chapitre 12, Apocalypse 12, maintenant le verset 9, nous lisons, verset 9, il est écrit. Ainsi donc, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, celui qui séduit le monde entier, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ce grand dragon Satan, le diable, a été précipité et sera encore précipité. À la fin, il a établi son trône sur la terre. Je vais vous le lire dans les Saintes Écritures, au verset 13. On peut lire Apocalypse 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc, d'abord en haut, puis précipité et continué ici en bas son œuvre. 7 têtes et 10 cornes. C'est ainsi que le dragon apparut dans le ciel ou dans les cieux. Je vais maintenant lire le chapitre 13 d'Apocalypse, verset 1. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit? C'est que c'est la même chose que Jean a vu aussi, plus haut, Satan, qu'il a vu plus haut, qui a été précipité, a fait ici la même chose sur terre. 7 têtes, 10 cornes. Quelque chose de satanique n'existe pas. Il n'y a pas plus satanique que ça sur terre. Je poursuis ma lecture. Et 10 couronnes royales et sur cette tête des noms blasphématoires, etc. Oui, il en est entièrement recouvert. Alors il est écrit ici, au verset 2. La bête que je vis ressemblait à une panthère, mais ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna alors sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'avez-vous entendu? Qui donne à cet animal, à cette bête qui sort de la mer? Que signifient les eaux et les mers dans la prophétie biblique? On peut le lire dans Apocalypse 17, encore une fois. 17, verset 15. Puis il poursuivit, les eaux que tu as vues où trône la prostituée sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Maintenant, une bête sort ici de la mer des nations et le dragon donne à cette bête sa puissance et son trône. Avons-nous compris cela? L'avons-nous compris? C'est ce que dit ici la sainte parole de Dieu. Comme nous sommes reconnaissants pour chaque passage biblique que nous pouvons seulement lire, pour chaque texte qui apporte plus d'éclairage jusqu'à ce que l'image globale nous apparaisse clairement par révélation. Vous pouvez continuer à lire. Après ils adoreront là. Après le dragon est adoré qui avait donné son pouvoir à la bête. Je ne suis pas un homme qui juge car j'ai moi-même besoin de la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Même l'humanité n'est pas du tout consciente qu'elle n'adore pas Dieu. Ils ne le savent même pas. Ils pensent qu'ils vont à un service divin. Oui, quel genre de service divin? Donc, c'est cela. Quand vous regardez autour de vous, dans le bâtiment où un service divin est censé avoir lieu et que vous voyez toutes les idoles et tout, oui, où est le service divin? Il n'y a pas de service divin. Le service divin est là où le Dieu Saint peut se manifester et être adoré en esprit et en vérité. Pas là où l'on se prosterne devant une madone à Czestochowa. Je ne sais même pas qui l'a placé là, qui l'a fabriqué, certainement pas Dieu. Tout cela aussi sera rendu public. Cela doit être apporté au peuple. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous voyez donc que la chose diabolique a exactement, ici sur terre, est en rapport et a même la même ressemblance que le diable lui-même. Comme la cause divine sur terre est en relation avec Dieu. Deux royaumes différents. L'un le royaume de Dieu par Jésus-Christ, l'autre le royaume de Satan par l'Antichrist. Cela doit être clairement proclamé dans le monde entier. L'Église de Jésus-Christ se tient du côté de Dieu et non du côté de l'Antichrist. Et ne pensez pas qu'il s'agit d'une mauvaise intention, mais d'une véritable bonne intention. À savoir, pour ceux qui ne voient pas encore clairement la chose, mais qui doit être dite très clairement. Je continue à lire pour que vous voyez que ce n'est pas seulement un pouvoir entier qui est désigné de bête, mais que aussi un individu qui préside ce pouvoir. Je souris parfois en lisant des journaux étrangers, en particulier sur l'époque du Troisième Reich. On y lit très rarement les Allemands, toujours l'Allemagne nazie et l'Allemagne hitlérienne et ainsi de suite. Non, les gens ont beaucoup de tact, pas comme moi, qui doit sortir le chat du sac et qui ne tape pas sur le buisson, mais qui traite ce qui est caché sous le buisson, n'est-ce pas, un peu parfois. Passer doucement. Cela fait tout simplement partie de la proclamation de la parole de Dieu. Mais nous tous qui avons participé à cela, nous pouvons nous rappeler combien de fois il a été question de bête. Il y avait un mot commun dans les années du Troisième Reich. Quand quelqu'un arrivait en uniforme jaune avec quelques insignes, les vieux disaient « c'est une grande bête ». Vous connaissez cette expression? Bien sûr, nous savons tous qu'ils ont tous participé. Tout le temps. Et si quelqu'un a deux choses ici, un signe, quelque chose autre là, c'est une grosse bête. C'est comme ça dans le langage populaire encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, c'est comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux rien dire. Je veux laisser Dieu dire ce qu'il a déjà dit. Apocalypse 13, verset 7. Il lui fut aussi permis. Qui est celui? Il lui fut aussi permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et le pouvoir, lui, pas leur, mais lui fut donné, un individu, lui fut donné sur toute tribu, tout peuple, toute langue. Qui est celui que ce grand pouvoir est là, nous le savons tous, mais qui est celui qui incarne ce pouvoir? Qui détermine la manière dont le pouvoir est exercé. Là aussi, nous ne nous posons plus de questions. Satan a son représentant ici sur cette terre. Nous ne posons plus de questions. Et tout le pouvoir de Satan lui est mis à sa disposition. Vous savez que lorsque le Seigneur, a traversé les tentations, Satan lui a proposé tous les royaumes du monde. Mais notre Seigneur savait que le moment venu, il sera le maître héréditaire de toute la terre. Et au moment où il posera un pied sur la terre et l'autre sur la mer, en tant que propriétaire originel, cela se fera entendre dans le ciel et sur la terre. Et tout tremblera, car c'est le moment où il présentera sa revendication. Il ne nous a pas seulement rachetés, il a aussi destiné cette terre à être renouvelée et à ce que le règne de 1000 ans ait lieu ici. Et ensuite aussi pour qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre viennent. Pouvoir sur tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Qui exerce ce pouvoir? Quelqu'un des États-Unis ou de Russie? Aucun d'entre nous ne le croit. Ou de Chine? Personne ne le croit non plus. Quiconque a un peu de crainte de Dieu et connaît les Saintes Écritures sait d'où viendra le pouvoir. Et nous ne nous trompons pas. Il ne nous sera peut-être pas épargné un court moment où nous le ressentirons. Mais tout ce que Dieu permettra ne servira qu'à nous détacher encore plus de cette terre et à nous exclamer simplement « Viens vite, reviens bientôt, Seigneur, reviens vite, Seigneur Jésus, et mets fin à toute cette détresse. » Dieu saura déjà ce qui est nécessaire pour cela, afin que finalement l'esprit et l'épouse disent la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne fassent que... C'est-à-dire que les croyants ne fassent que s'exclamer « Viens, Seigneur Jésus !» Ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, mais cela peut le devenir très rapidement. En ce qui concerne cet homme ou cette femme, je voudrais lire très brièvement Apocalypse 17. En ce qui concerne cet individu, je voudrais me lire rapidement d'Apocalypse 17. Ici seulement deux versets. Apocalypse 17, verset 9, peut-être ensuite verset 11. Apocalypse 17, verset 9. Il faut ici de l'intelligence jointe à la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles trône la femme. Avez-vous tous lu? Les sept montagnes ou les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles trône la femme. Où se trouvent les sept collines de la ville sur la terre? Où est-ce qu'il y a une ville qui a sept collines sur la terre? Où l'Église universelle règne et gouvernerait? Ceux qui n'ont pas encore compris le terme de femme comprennent très vite. Tout comme une femme reçoit la semence pour donner la vie, l'Église était destinée à recevoir en elle la semence divine pour que naissent des fils et des filles de Dieu. Et cette semence est la parole de Dieu. Mais voici l'Église apostate, l'Église déchue, la prostituée, la grande prostituée qui séduit la femme ouverte, couverte de noms blasphématoires par l'Église. L'Église est décrite dans Apocalypse 12, à savoir avec la couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ce qui signifie que l'Église du Nouveau Testament est couronnée de l'enseignement des 12 apôtres. Et c'est de cette Église, de l'Église vraiment apostolique, bibliquement apostolique du Nouveau Testament, que naîtra la troupe des vainqueurs. Et quelle sera cette troupe des vainqueurs? Sera enlevée vers Dieu et son trône. Avez-vous compris cela? Il est dit ici, celui qui a de l'intelligence, non pas la tienne ou la mienne, mais la sagesse divine associée à ce que Dieu donne. Et il est dit, les sept têtes sont sept montagnes. Les sept montagnes sur lesquelles trône la femme. Nous lisons ensuite le verset 11. De plus, la bête qui était et qui n'est plus est elle-même le huitième roi. Et pourtant, elle est du nombre des sept et elle s'en va à la perdition. Puis viennent les 10 cornes et tout le reste. Je dois presque sourire maintenant. J'ai seulement probablement déjà raconté ici, mais cela ne va pas le matcher, je le répète. Qui peut croire que l'on peut recevoir une révélation de Dieu au milieu du Vatican? Celui qui est connecté à Dieu, est lié à Dieu, il recevra cette révélation. Je l'ai vécu en 1964, si je situe bien l'époque. J'ai fait une visite avec un groupe américain. Je me suis joint à ce groupe Et juste avant chaque étape que nous faisions, le guide nous expliquait, « Mesdames et messieurs, très chers, je voudrais vous dire quelque chose. Et c'est que nous ne sommes pas ici en Italie, mais dans un état à part. Nous sommes maintenant dans l'état de la cité du Vatican. » Puis il a énuméré tout ce qui fait partie de l'état. Et alors qu'il faisait ainsi cette énumération, la révélation est venue sur la parole que nous venons de lire. Est lui-même le 8e roi et pourtant il fait partie des 7. Et c'est pourquoi les gens ne le trouvent pas, parce qu'il est resté là, immergé. Mais Dieu l'a fait ressortir. Ne vous inquiétez pas. Il est le 8e. Mais ils ne sont en fait que 7. 7 têtes. On sait, il y en a un qui s'est avancé. C'est le 8e. Et il va à sa perte. Mais nous pourrions encore en dire beaucoup sur ce sujet et le mener très loin. Dieu a tout bien fait. Savez-vous que ce n'est que depuis 1929 que l'état de la cité du Vatican est l'état de la cité du Vatican? Savez-vous comment toutes ces choses se sont passées? Il faut lire tout cela correctement et comprendre ensuite comment les choses ont été préparées pour la fin des temps, pour que tout puisse suivre son cours conformément à la prophétie divine. Remerciez le Dieu vivant pour cela. Il a pourvu et il pourvoira jusqu'à la fin. Nous pourrions encore lire de nombreux passages à ce sujet. Je voudrais juste lire brièvement Apocalypse 14, verset 9, puis conclure avec Apocalypse 15. Dans Apocalypse 14, et cela me semble vraiment très, très important. Nous avons 3 messages divins. 3 anges sont vus volant dans le ciel et chacun d'eux a une tâche différente. De même que Dieu peut montrer à Jean le dragon dans le ciel qui se trouve encore sur la terre, qui se trouve après sur la terre, qui se trouve plus tard sur la terre et qu'il voit l'église comme une femme dans le ciel qui est sur la terre, là avec 12 étoiles, ici couronnée de l'enseignement des 12 apôtres. De même, Dieu peut ici aussi manifester très clairement que les choses qui ont été montrées dans le ciel se déroulent ici sur la terre. Et vous allez tout de suite dire tous Amen. Ne vous inquiétez pas. Dans Apocalypse 14, verset 6. Puis je vis un autre ange qui volait très haut au milieu du ciel, chargé d'annoncer d'une manière certaine aux habitants de la terre, à toutes les nations, tribus, langues et peuples, un message de salut valable éternellement. Une question. Qu'est-ce qui est dans Matthieu 24, verset 14? Il faut que cet évangile du royaume soit prêché à toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Et ce message de salut du royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. L'évangile pur et éternel, tel que nos frères l'ont annoncé au temps des apôtres, doit être proclamé ainsi maintenant à la fin, ainsi à tous les peuples, à toutes les langues et à toutes les nations. Qu'en pensez-vous? Pourquoi toutes les portes s'ouvrent-elles? Pourquoi les frontières tombent-elles? Pourquoi Dieu fait-il tout cela? Mais certainement pour que sa parole s'accomplisse et que son évangile éternel soit proclamé dans le monde entier. Et ainsi vrai que Dieu l'a dit, aussi vrai que cela arrivera. Ainsi vrai cela arrivera, car le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne peut et ne passera pas. Suis maintenant le septième verset. Juste après la proclamation de l'évangile éternel valable éternellement, vient la déclaration suivante. Et il s'écria d'une voix forte, verset 7 maintenant, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a créé le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Aujourd'hui, ils adorent la mer et les sources d'eau. Ils disent, la nature est notre Dieu. Mais vient ensuite l'invitation à ne pas offrir ce qui a été, à ne pas adorer ce qui a été créé, mais le créateur des cieux et de la terre, de ne pas créer la créature, mais le créateur, et de lui donner lui l'honneur. Ensuite, suit un 8e verset 8. Derrière lui vient un troisième, un, un deuxième. Derrière lui vint un autre ange, le second, qui cria, « elle est tombée, la grande Babylone, qui a fait boire à toutes les nations le vin de l'ardeur de sa fornication. Quiconque boit à cette coupe-là s'enivre, et il ne suit plus le droit chemin, il ne peut plus le suivre. » Il titube. Et c'est là que nous pouvons ouvrir la parole du prophète. Jérémie 51, une parole si convaincante que même quelqu'un qui appartient au système doit être submergé et touché. Jérémie 51, verset 7. Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel qui a enivré toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont perdu leur sens. Et j'écris cela. C'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Et pensez à l'époque où vivait le prophète Jérémie. Les prophètes de Dieu étaient des hommes de Dieu par lesquels le Seigneur pouvait parler lui-même, agir, prédire des choses. Et écoutez cela. Soudain, verset 8, Babylone est tombée et brisée. Lamentez-vous sur la ville. Allez chercher du baume pour cette douleur. Peut-être la guérison est-elle encore possible. Ensuite, verset 9. Croyez-moi qu'il n'y a pas de guérison pour elle, pas de remède. Nous avons essayé de guérir Babylone, mais elle n'a pas pu être guérie. Laissez-la à elle-même. Partons chacun dans son pays. Amen, alléluia. Sortons chacun dans son pays. Celui qui veut guérir Babylone arrive trop tard. Il n'y a qu'un seul appel. Sortez, vous, mon peuple, séparez-vous. C'est ça la guérison, mais pas... Il y a la guérison, mais pas pour Babylone, mais seulement pour tous ceux qui sortent de Babylone, qui laissent derrière eux le système maudit pour être béni par le Dieu vivant. Pourquoi ai-je dû dire cela maintenant? Galates, chapitre 1, verset 8. Si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, que dit-il? Qu'est-ce écrit là? Qu'il soit maudit. C'est un système maudit. Ça, on doit le dire au monde entier. Et qu'on lance l'appel, sortez! Car c'est encore le temps de la grâce, l'évangile est encore annoncé. Et les gens peuvent devenir croyants et passer du faux au vrai. Combien de pentecôtistes y a-t-il eu? Je connais moi-même les deux frères qui à l'époque ont imposé les mains au cardinal Béa, le cardinal suprême au Vatican pour qu'il soit baptisé Saint-Esprit. Et en effet, les gardes du corps du cardinal Béa ont soudain entendu un tumulte et sont entrés et ont retiré ses deux frères de lui. Ils lui ont secoué la tête et ont dit parle, etc. Et il ne pouvait pas parler. Tout était perdu pour lui, n'est-ce pas? Beaucoup ont voulu guérir Babylone. Et aujourd'hui encore, de nombreux charismatiques pensent pouvoir guérir Babylone. Et ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes, s'il te plaît, qu'eux-mêmes ils tombent malades. Qu'ils ne tirent pas les gens de là, mais qu'ils y tombent eux-mêmes. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Je souhaite qu'un jour le stade de Düsseldorf soit à ma disposition pour annoncer la parole du Dieu Tout-Puissant dans ce pays. Cela me pousse à le faire de toute force. De la même manière que les anges ont été montrés ici et que ces choses ont été annoncées. Ces choses doivent suivre leur cours sur la terre. Apocalypse 14, verset 9, encore il est écrit. Apocalypse 14, verset 9. Un autre ange, le troisième, les suivit, criant d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira de même du vin de la colère de Dieu, préparé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté par le feu et le soufre sous les yeux des saints anges et devant l'agneau. Mais qui sait ce qu'est la marque de la bête? Qui sait qui est la bête? Qui connaît ces choses? Je me répète aujourd'hui, un jour, je me répète aujourd'hui, un jour, nous serons reconnaissants du fond du cœur que Dieu ait envoyé un prophète dans notre génération pour révéler toutes ces choses que nous n'aurions jamais su. Et je m'y associe de tout cœur. Je dois à Dieu te dire la vérité. je ne saurais pas ce que je sais aujourd'hui. Et je ne pourrais pas annoncer ce que j'annonce si Dieu n'avait pas envoyé son serviteur et prophète sur lequel l'esprit de prophétie se reposait et à qui la parole et qui pouvait regarder dans la parole prophétique et pouvait faire connaître les révélations qui ne pouvaient pas être vues auparavant. La parole se produit toujours ou va toujours aux prophètes encore aujourd'hui. Mais il y a ceux qui ne sont pas prophètes, qui viennent de l'agriculture, qui ont cueilli des sycomores, bien des mûriers. J'ai cueilli un jour un mûrier en Hongrie. J'ai été étonné de voir à quoi elle ressemblait, ou qui sont cultivés, ou qui ont cultivé des figues en Israël. Nous avons pris les figues sur les arbres, n'est-ce pas? Vous le savez bien. Dieu prend alors ceux qui ne sont pas prophètes. Il met la parole des prophètes dans leur bouche et la fait annoncer au peuple et aux langues. Je le dis sans détour, je ne suis pas prophète. Mais je sais une chose, je possède la parole prophétique par révélation. Je la porte dans mon cœur. C'est devenu une partie de moi. C'est devenu une partie intégrante de moi. Et de toi, est-ce que la parole de Dieu est devenue une partie intégrante de toi? De toi aussi, est-ce qu'elle est devenue pour toi une révélation vivante? Ou bien dois-tu encore faire des efforts, réfléchir à la manière dont les choses sont? Ou bien est-ce qu'elles te sont accordées par révélation? Regardez encore un verset biblique, Apocalypse 15, verset 2. Il est écrit ici, Apocalypse 15, verset 2. Et je vis comme j'ai vu quelque chose comme une mer de cristal mêlée de feu. Et je vis ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de cristal, des harpes de Dieu à la main. Qui se tiendra près de la mer de cristal? Sur la mer de cristal, qui se tiendra debout sur la mer de cristal? La grande masse de croyants qui passent à côté de ce que Dieu fait et qui mélangent tout? Non. Il n'y aura là que la foule des vainqueurs, ceux qui ont tenu bon dans l'épreuve, ceux qui ont remporté la victoire sur la bête, sur son image et le nombre de son nom. Cela ne nous tombera pas. Comme ça là-dessus, il ne sera pas non plus rendu facile pour nous. Mais par la grâce de Dieu, nous savons même si un temps d'épreuve devait s'abattre sur nous, ce qui nous attend après le temps d'épreuve, à savoir la gloire et le bonheur éternel. Et la béatitude éternelle, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas entré dans le cœur de l'homme, Dieu le prépare pour ceux qui l'aiment. Que celui qui veut aimer Dieu l'aime entièrement, non pas à moitié, mais vraiment tout entier pour Jésus, tout entier pour lui. C'est ainsi que nous voulons traverser la vie. Un engagement et une réception totale de la vérité divine telle qu'elle nous a été donnée par la révélation de l'Esprit par grâce. Ce n'est pas nous qui faisons la différence, c'est Dieu qui a fait la différence et qui l'annonce déjà par le prophète Malachi dans l'Ancien Testament, au chapitre 3, au verset 18. C'est alors que vous percevrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimés, je l'ai souvent dit, nous avons vu le Christ par révélation divine, nous avons pu le reconnaître. Nous savons qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est exactement ainsi que nous avons percé à jour l'Antichrist. Et c'est l'Esprit de Christ en nous qui doit être contre l'Antichrist. Car l'un et l'autre sont comme le jour et la nuit, comme la lumière et les ténèbres. Et nous croyons donc que Dieu nous a gracieusement visités en ces derniers jours. Non seulement nous avons pu devenir croyants, nous avons pu croire, mais nous l'avons reconnu, ainsi que la puissance, l'avons connu, lui et la puissance de sa résurrection, et aussi l'époque dans laquelle nous vivons, les signes des temps, le message divin, de l'appel à sortir, de la correction, du retour à l'évangile originel de Jésus-Christ, l'enseignement des apôtres. Car c'est ainsi que Dieu l'a promis dans sa parole. Et c'est ainsi que cela se passe sous nos yeux. Il ne s'agira pas d'une grande masse, mais d'une foule appelée à sortir, ce troupeau qui a été appelé à sortir, né de l'Esprit et de la parole, qui a été appelé à sortir par la naissance de l'Esprit et de la parole, racheté par le sang de l'agneau, uni à Dieu, marchant ensemble, cœur à cœur, et même entre nous, cela doit encore changer. L'amour de Dieu doit gouverner nos cœurs et nos sens. Nous devons plutôt nous soumettre à la conduite du Saint-Esprit pour tenir la langue en bride, à moins que ce ne soit pour servir Dieu, que nous ouvrons notre bouche. Certaines choses doivent encore changer avec nous tous. Cela aussi, Dieu nous le donnera par grâce. Lui, notre Seigneur et Sauveur, exalté Jésus-Christ, qui marche au milieu des sept scintillants d'or, qui parle encore aujourd'hui, qui agit encore aujourd'hui, qui considère encore aujourd'hui l'Église comme le chandelier d'or, qui a les sept anges, les sept étoiles dans sa main droite. Il est encore aujourd'hui celui dont la droite est élevée, la droite du Seigneur est élevée. Et la droite du Seigneur garde la victoire. Et ceux qui vainquent, tous seront considérés. Et ceux qui vaincront toutes choses seront considérés comme, seront montrés sur la mer de cristal. Que le Seigneur nous donne sa victoire accomplie à Golgotha et qu'il nous donne la puissance, la force des vainqueurs, afin que nous puissions nous aussi tous surmonter et être trouvés dignes de rencontrer le Seigneur quand il reviendra pour ramener les siens à la maison. À lui, le Dieu vivant, soit la louange, l'action de grâce, la reconnaissance, la gloire et l'adoration, maintenant et éternellement. Amen. Amen. Levons-nous et rendrons grâce au Seigneur. Frère Rousse, viens s'il te plaît prier. Mon Dieu, ô Seigneur fidèle, nous te remercions du fond de nos cœurs pour ta sainte et précieuse parole, pour la parole prophétique, Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne peut pas revenir à vide, sans effet. Il faut qu'elle se réalise, Seigneur, et qu'elle produise l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Ce qui a été dit par la bouche des prophètes, par la bouche des prophètes et des apôtres doit s'accomplir, Seigneur. Nous le voyons de nos jours, ô Seigneur, Dieu. Ce n'est pas de notre propre initiative, mais par ta grâce, Seigneur, qu'il nous a été donné de voir cela. Et c'est pourquoi nous t'adorons et te remercions sincèrement pour ta puissante parole ce matin encore. Nous n'avons pas entendu la parole des hommes, nous avons entendu ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Louange et remerciement, gloire et adoration depuis ton nom. Gloire et adoration en ton nom glorieux. Les hommes peuvent passer à côté de ta parole. Ils peuvent ne pas la voir, Seigneur, mais au tien, tu donnes la grâce. Et tu donnes la lumière, Seigneur, et la compréhension de ta parole. Seigneur, merci pour cela. Que l'honneur et la gloire, la louange et l'adoration te soient apportées. Seigneur, accorde ta grâce à tous ceux qui sont venus et ont entendu ta parole. Accorde à tous la grâce, Seigneur, de la recevoir, d'y prêter attention, Seigneur, et d'apporter l'honneur et l'adoration et la louange. Alléluia. Seigneur fidèle, nous aimerions maintenant te présenter les prières d'intercession, les requêtes de nos bien-aimés qui se sont recommandés à toi. Tu es à nos requêtes, tu es le grand médecin et le grand sauveur. Tu peux intervenir, il n'y a pas de frontière pour toi, Seigneur. Que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, tu connais ton peuple, tu connais le désir, tu sais ce dont chacun a besoin. Seigneur, Seigneur, nous te confions tout et te prions avec ferveur. Aide nos frères et sœurs bien-aimés. Aide tous ceux qui ont besoin d'aide, Seigneur. Seigneur, nous te faisons confiance, Seigneur. Et nous savons que tu donneras au-delà de la demande et de la compréhension. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen.